Et à présent, on va s'intéresser à un sujet beaucoup moins drôle, car j'ai reçu un communiqué du collectif Action Autonomie et qui nous informait que l'utilisation des électrochocs dans le domaine de la psychiatrie faisait son gros retour. Et pour nous en parler, j'ai au bout du fil Madame Khadija Ben Abdallah, qui est chargée de projet donc pour la campagne contre les électrochocs chez Action Autonomie. Madame Ben Abdallah ?
Oui,
bonjour, merci beaucoup d'être parmi nous ce matin.
Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.
Madame Ben Abdallah, peut-être pour débuter cette entrevue, est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu ce qu'est le collectif Action Autonomie et nous expliquer exactement le mandat de cet organisme communautaire, s'il vous plaît.
Orientation. D'abord, c'est un collectif de défense des droits. Alors, et un organisme communautaire, et comme tous les organismes communautaires, à la base, ils ont été initiés au début, donc dans leur historique, ils ont été initiés par des personnes qui vivent la problématique, c'est-à-dire des personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale, qui se sont organisées pour défendre leurs droits.
D'accord, c'est que j'imagine qu'à l'origine, il devait y avoir justement que leurs droits ont dû être bafoués ou il devait y avoir des petits soucis.
Tout à fait, bien sûr, c'est ça. Et donc, en conséquence, l'organisme favorise la prise en charge de la personne par elle-même du problème. Donc, il va y avoir des problèmes qu'elle rencontre, donc par exemple des abus, etc., dont on pourrait parler un peu plus. Donc, elle va organiser des séances d'information, elle va fournir de l'aide et de l'accompagnement dans les démarches, mais de manière, elle va expliquer à la personne, lui donner tous les éléments qui vont lui permettre de se défendre elle-même. Dans les cas plus délicats, il peut y avoir un accompagnement réel, c'est-à-dire dans le sens un accompagnement dans les faits physiques
avec
la personne. Mais ce qui est privilégié, c'est que la personne connaisse elle-même ses droits et puisse s'assurer du respect de ces droits-là.
Waouh, même si j'imagine qu'il y a des moments quand on souffre de dysfonctionnement, ou en tout cas quand on a des petits soucis mentaux, ça doit être difficile d'avoir les pieds ancrés dans la réalité, de pouvoir se dire ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi. Ou...
Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est pour ça qu'il y a cette offre d'accompagnement, mais il y a aussi la possibilité de se faire accompagner par une autre personne. Donc, Action Autonomie donne aussi des formations sur les droits et recours à différents endroits, aussi bien dans d'autres organismes communautaires qu'au niveau des universités, pour des intervenantes, des personnes qui vont donc agir par la suite dans leur groupe ou dans les CLSC avec des personnes qui ont des problèmes en santé mentale.
D'accord. De toute façon, à la fin de notre entrevue, on donnera toutes les informations pour pouvoir joindre Action Autonomie. Mais si je vous reçois aujourd'hui, comme je le disais, c'est parce que mon attention a été attirée sur une campagne contre les électrochocs. Et j'ai fait un petit peu de recherche, d'ailleurs, sur un mémoire. Je pense que c'est un mémoire que vous avez fait, vous, c'est ça ?
Un argumentaire que j'ai rédigé.
C'est ça, sur les électrochocs et l'état des lieux. Parce que est-ce que c'est réellement une pratique ou est-ce qu'on peut dire un traitement ?
Il l'appelle traitement, nous on préfère le mot technique.
D'accord.
C'est une technique plutôt qu'un traitement pour nous.
Et est-ce que c'est vraiment une technique qui fait son grand retour dans le milieu de la psychiatrie ?
Oui, dans les années en 88 par exemple, il y avait 4000 séances d'électrochocs qui étaient recensées au Québec. Là, en 2003, donc dans les derniers recensements, on en a 8119. Donc c'est vraiment en hausse.
Ah oui.
Et puis dans ces cas répertoriés, on voit qu'il y a majoritairement des femmes. Il y a 66% de personnes qui sont touchées par les électrochocs. 66% sont des femmes.
Et comment est-ce que
les plus âgées.
Et comment est-ce qu'on explique ça justement ?
Je ne sais pas. Il faudrait leur poser la question.
Ah ok, d'accord. Parce que peut-être qu'il serait intéressant d'expliquer aussi sans être alarmiste et sans faire de sensationnalisme, parce que je sais que ça c'est pas quelque chose que vous voulez faire, mais nous expliquer un petit peu ce que c'est que cette technique des électrochocs.
Oui.
Parce qu'on en entend souvent parler, on prend souvent ce mot pour parler qu'on a eu un choc, mais qu'est-ce que c'est concrètement les électrochocs ?
Alors, les électrochocs, ils datent de longtemps. Hein. Ça a commencé dans les années 30, plus particulièrement en Italie, puis ça a tout de suite envahi les États-Unis. C'est une technique qui ensuite a diminué ou pratiquement disparu dans les années 60-70 et qui est en train de revenir donc en force. Elle n'est pas basée à l'origine sur quoi que ce soit, si ce n'est que la personne, le médecin, en l'occurrence celui qui a commencé à donner des électrochocs, avait constaté que les personnes qui souffraient d'épilepsie n'étaient pas schizophrènes. Et puis il s'est dit peut-être qu'en faisant faire des convulsions cérébrales aux gens, c'est-à-dire la même chose qu'une crise d'épilepsie,
d'accord,
peut-être que ça ferait qu'ils n'auraient plus de problème.
Ah donc, c'est-à-dire que si je comprends bien, recevoir des électrochocs, c'est comme si on voulait créer donc en nous une crise d'épilepsie ?
Tout à fait. On provoque la convulsion cérébrale, c'est-à-dire une crise d'épilepsie fabriquée. Il y a deux méthodes, une méthode qu'on appelle unilatérale et une méthode qu'on appelle bilatérale, mais peut-être qu'on ne va pas rentrer dans les détails, mais on applique des électrodes au niveau des tempes,
ouais,
chaque côté donc de la tête, des deux tempes, ou bien une tempe et le milieu de la tête, et on fait passer de l'électricité qui va de 140 à 460 volts, si on considère le voltage, ou bien de 300 à 800 milliampères si on considère l'intensité. Je ne sais pas si vous les données sur le plan électrique, c'est comme si on faisait passer de l'électricité de manière à allumer une lampe.
Ah oui, d'accord, donc c'est clair.
Et
parce que quand
on focalisé sur le cerveau.
Oui, parce que quand on a été jeune et qu'on s'est amusé comme moi à mettre les doigts dans une prise, on a vu à peu près ce que ça faisait.
Voilà.
Et ça, c'était par accident. Mais en plus, quand c'est, j'allais dire, orienté directement sur le cerveau. Et justement, mais de passer autant d'électricité avec un tel ampérage, est-ce que c'est pas plus dommageable que guérissable quelque part ?
Bon, alors, dans les écrits scientifiques, dans la littérature scientifique, effectivement, on recense énormément de problèmes. Donc, ce qu'ils appellent habituellement les effets secondaires, mais en fait, est-ce que ce n'est pas vraiment les effets des électrochocs en tant que tels ? Alors, on voit qu'il y a des hémorragies, des possibilités d'hémorragie directement dans le tissu nerveux, ou bien entre la boîte crânienne et le tissu nerveux, ce qu'on appelle les méninges. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs de vos cours à l'école.
Je les ai beaucoup séchés.
Oui. Mais en tout cas, donc, des hémorragies. La pression artérielle dans le cerveau, elle augmente. Elle est de 400% supérieure à celle qu'il y aurait habituellement. Ça agit effectivement aussi, pas seulement donc sur le cerveau, il va y avoir ces hémorragies-là, mais il peut y avoir aussi des morts cellulaires, des cellules nerveuses. Il peut y avoir augmentation des cavités. On a des cavités dans le cerveau, donc si elles augmentent, ces cavités, ça veut dire qu'on a comprimé le reste du tissu nerveux. Puis il y a des effets aussi sur le reste de l'organisme, donc sur le système cardiovasculaire, c'est-à-dire sur le corps, le cœur, sur les vaisseaux sanguins.
Bah c'est une question que je voulais vous poser justement, Madame Ben Abdallah, c'est est-ce que sur les organes vitaux, c'est pas dangereux aussi de se recevoir une décharge comme ça ?
C'est très dangereux, d'autant plus que cette technique, si on revient à comment elle est administrée, dans le temps avant, elle n'était pas administrée sous anesthésie, puis les gens voyaient l'effet donc direct, la douleur, les cris, et la douleur donc de ces personnes. Maintenant, elle est administrée sous anesthésie.
Générale ou locale ?
Générale.
Ok.
Mais la douleur, elle est toujours là, le choc, vous le recevez toujours. Donc, c'est-à-dire votre organisme, il enregistre toujours un choc. Plus, il y a ce qu'on appelle la curarisation. La curarisation, c'est immobiliser, c'est paralyser vos muscles pour justement, parce que dans le temps, il y a de la convulsion, donc il y avait des mouvements désordonnés et puis il y avait des fractures.
Ah bah oui, il y a qu'à voir un épileptique justement en pleine crise, la violence.
C'est exactement ça.
Oh, absolument, oui. Quand on voit la violence que ça peut engendrer justement, c'est assez fort, quoi.
Complètement. Et pour diminuer ce genre de risque, les médecins, les psychiatres, maintenant anesthésient et curarisent, donc immobilisent la personne. Mais malgré l'immobilisation, il peut y avoir des fractures, il peut y avoir des fractures dentaires, entre autres. Il peut y avoir ces anesthésies et cette curarisation peut augmenter en fait l'effet. Donc de l'électrochoc, dans le sens où ça peut arrêter la respiration, où il peut y avoir des décès qui donc sont renforcés. Le nombre de décès est augmenté par le fait de l'anesthésie, le nombre d'arrêts de respiration sont augmentés par la curarisation, etc. Wow. Que d'un côté, oui, le médecin qui administre les électrochocs maintenant, et si vous êtes présent à une séance d'électrochoc, eh ben, vous n'allez pas voir la personne souffrir.
Ah oui, donc comme ça, une fois de plus, ça, quelque part, c'est très propre, quoi. C'est un petit peu comme les dommages collatéraux chez les Américains, quoi.
Exactement, merci de la comparaison. C'est exactement ça. C'est une technique propre maintenant, ce qui n'empêche pas que les gens vivent exactement la corrélation que vous faites avec la guerre. C'est exactement ça.
Ah ouais, mais justement, c'est lorsqu'on reçoit des électrochocs, est-ce qu'on a été, on est d'accord pour recevoir ce traitement, ou est-ce que ça nous est imposé? Parce que comme je le disais aussi, parfois, quand on a des petits soucis d'ordre mental, on est peut-être plus très en phase avec la réalité. Donc, est-ce qu'il y a de l'abus dans ce genre de pratique, ou est-ce qu'il faut forcément donner son consentement pour pouvoir recevoir ce traitement?
Alors, je vais revenir à votre question tout de suite, juste pour ajouter un point sur les effets. Un des effets le plus durable et le plus documenté, c'est les effets sur la mémoire. Il y a des pertes de mémoire des événements passés qui est dramatique. Et il y a aussi des pertes de mémoire dans retenir les informations, donc ce qu'on appelle la mémoire entérograde. Retenir ce qui va suivre. Et ça, c'est très important parce que ça va agir sur la capacité d'apprentissage de la personne, sur ses capacités de socialisation, de lier des liens avec son entourage, de pouvoir fonctionner dans la vie. Et malheureusement ou heureusement, je n'en sais rien, la vie, elle est basée beaucoup sur l'emploi pour avoir un revenu. Donc ces personnes-là vont être encore plus
handicapées quelque part,
subir encore plus ce problème de dépression, par exemple, si c'était la dépression, par la suite, parce qu'après les électrochocs, travailler en thérapie, c'est pas du tout évident, parce que la personne, justement, ben, elle a perdu de gros bouts de son passé, de gros bouts de son vécu, et surtout de sa vie émotionnelle.
Waouh, ça doit être...
C'est d'autant plus dramatique dans ce qui est de la qualité de vie des personnes qui déjà sont vulnérables et viennent parce que leur qualité de vie est affectée.
D'accord. Et oui, c'est ça.
Venir au consentement dont vous parlez, la loi, elle dit qu'il faut un consentement. Il faut obtenir le consentement libre et éclairé. Mais qu'est-ce que ça veut dire, un consentement libre et éclairé? Ça veut dire qu'il doit y avoir aucune sorte de pression. Alors qu'on constate que, par exemple, ils vont leur dire, si vous n'acceptez pas les électrochocs, ben, vous ne sortirez pas de l'hôpital. Un exemple. Comme on le fait aussi pour les médicaments, ça peut arriver. Donc là, le consentement n'est pas libre.
Ah oui, sans camisole chimique, on vous garde, ou sans électrochoc, vous restez dans les locaux, et forcément, on n'a qu'une envie, c'est de partir, donc on accepte.
Alors déjà, et puis en plus, un consentement libre et éclairé, ça c'est pour la liberté, éclairé, ça veut dire qu'on doit avoir toutes les informations aux conséquences de cette technique ou de ce traitement, et aussi toutes les informations concernant les alternatives à ce traitement. Or ça n'est pratiquement jamais fait. Ça n'est pas fait d'un côté parce que dans les documents officiels, on ne répertorie pas tous les articles qui sont sortis en rapport avec les électrochocs, c'est-à-dire qu'on minimise quelque part
les effets,
intentionnellement ou non, ça je ne veux pas rentrer dans l'intentionnalité, mais on minimise les impacts dans les documents officiels. Qui sont déjà dans les documents officiels, mais les articles, il y en a beaucoup, on peut aller en chercher, les autres qui ne sont pas particulièrement dans les documents officiels. Et de l'autre côté, donc on peut pas donc informer véritablement le patient des conséquences, et de l'autre côté, on ne lui présente pas, ou du moins on ne sait pas, nous, on n'a pas accès aux informations qui peuvent être fournies aux personnes quant aux alternatives. Si vous voulez, c'est une certaine idéologie, une certaine façon de fonctionner dans le monde psychiatrique ou de la santé mentale qui fait que on ne tient pas compte particulièrement de ce que la personne va dire. On met en avant la dimension biologique plutôt que la dimension humaine, sociale, les rapports que peut établir les gens avec les autres. Comment on peut avoir une aide par le biais de nos pères, par le biais de personnes qui ont déjà vécu ça, par le biais des dimensions des thérapies psychosociales, etc. C'est comme si ces différentes méthodes sont mises de côté et il va y avoir la primauté du biologique. On va dire, on va agir plus dans le sens d'une certaine scientificité, je dirais du scientisme plutôt que du scientifique.
Donc,
la personne, en réalité, ne reçoit pas, ne répond pas oui en ayant reçu véritablement
toutes les informations
qui la concerneraient, qui lui permettaient de prendre une décision. Donc voilà pour la remise en question du consentement libre et éclairé dans ce cas-là.
D'accord.
Et en plus de ça, on peut passer outre son consentement. Soit que la personne ne sait pas qu'elle doit donner son consentement, soit alors que la personne le sait, elle dit non, mais le médecin juge qu'elle en a besoin, et là, il passe par la cour. Et jusqu'à présent, tous les cas qui sont passés par la cour ont été acceptés par la cour. C'est-à-dire que la personne a été forcée de subir les électrochocs.
Ah oui, et j'imagine que forcément, si on a subi des électrochocs et qu'après on veut se retourner contre les médecins, là forcément, il y a l'ordre des médecins, et de toute façon, c'est pas grave, vous aviez besoin de ce traitement, et c'est comme ça, quoi. C'est peut-être un peu direct, je tire peut-être des grands traits, mais ça ressemble à ça, non?
Ça retombe à ça, mais peut-être qu'on n'a même pas besoin d'avoir derrière nous tout le collège des médecins, peut-être simplement la dimension de la crédibilité. Ce que Action Autonomie va revendiquer au fort, c'est l'importance de l'opinion de la personne et de lui donner donc sa crédibilité. Alors que ce qui se passe dans la vie de tous les jours, c'est qu'on donne une crédibilité au prétendu expert, donc le médecin, plutôt que la parole d'un patient.
La parole d'un patient. Et juste avant de vous demander justement où est-ce qu'on peut avoir toutes ces informations si on veut, rajouter son nom sur cette campagne, la dernière question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'il y a un âge minimum pour recevoir ce genre de traitement? Est-ce qu'on fait attention par rapport aux dommages que l'on sait ou,
En principe, on devrait. Mais dans les chiffres, on a vu par exemple que il y a eu des personnes de moins de 19 ans, on en a ici 0,6% qui ont subi des électrochocs et qui avaient moins de 19 ans. Par contre, vous voyez, en Italie, c'est interdit pour les moins de 16 ans. C'est interdit pour les plus de 60 ans. On est en retard dans ce domaine.
Oui, parce qu'on se rend compte quand même qu'il y a des séquelles, et quand on est en pleine évolution, du moins qu'on est un jeune adulte et qu'on a encore, j'imagine, on est encore quelque part un peu en formation aussi, même si, bon, la physiologie, tout ça, c'est terminé, mais ça peut quand même laisser de drôles de dommages, quoi, et de drôles de dégâts.
Oui, mais je crois que ça laisse des dommages et des dégâts à tout le monde. On a tous besoin de notre mémoire, de notre capacité de jugement, de compréhension, d'analyse, de notre capacité d'abstraction, de notre imagination. Or, c'est ça que touche des électrochocs.
Oui, c'est ça, avoir notre libre arbitre aussi, quoi, c'est important quand même.
C'est l'intégrité de la personne, c'est la dignité de la personne, c'est ce qu'elle est en tant que personne.
D'accord. Donc, Madame Ben Abdallah, où est-ce qu'on peut trouver, ou du moins, comment est-ce qu'on l'on peut faire si on veut participer à cette campagne contre les électrochocs, et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, on a une pétition qui circule et une déclaration. La déclaration, elle est pour les groupes. Tous ces documents-là peuvent se retrouver sur le site d'Action Autonomie que je vais vous donner, donc www.actionautonomie en un seul mot, .qc.ca. Ça, c'est pour les personnes qui ont accès, bien entendu, à l'Internet. Uh-huh. Mais pour les autres, il suffit d'appeler au 525-5060. Et on est situé au 1260 Sainte-Catherine-Est, bureau 208. Mais il est préférable de téléphoner avant.
C'est ça. Et vous voyez donc que les heures ouvrables sont de 9h à midi et de 1h à 5h du lundi au vendredi.
Oui, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie beaucoup, Madame Ben Abdallah, de nous avoir éclairé sur cette pratique. En tout cas, moi personnellement, que je trouve un petit peu douteuse. Mais et en tout cas, plein de bonnes choses pour cette campagne. Et surtout, je vous fais une carte de fidélité au magazine Centre-Ville du vendredi. Et j'espère que vous allez nous tenir au courant un petit peu des évolutions. Et même, de toute façon, avec Action Autonomie, en règle générale, on se tient un petit peu au courant de tout ce qui se passe. Donc c'est toujours un réel plaisir, en tout cas, de vous recevoir.
Merci beaucoup encore de votre intérêt pour cette campagne.
Merci, Madame Ben Abdallah. Au revoir. Voilà, donc j'étais en communication avec Madame Khadija Ben Abdallah, qui est chargée de projet pour la campagne contre les électrochocs chez Action Autonomie. Je vous redonne le téléphone si ça vous intéresse. Donc c'est dans le 514, le 525-5060, 525-5060. Et les heures ouvrables, donc du lundi au vendredi, de 9h à midi et de 1h à 5h.